Salut Raphaël.
Salut Patrick.
OK, donc, il faut dire, les CDC, c'est l'Agence de santé publique américaine, la grande agence de santé publique américaine. Bien, on a émis de nouvelles recommandations qui vont faire le bonheur là, des personnes qui sont vaccinées aux États-Unis.
Surtout qu'il commence à y en avoir pas mal des personnes vaccinées aux États-Unis, de plus en plus. Et Valérie Labeuf, t'en as tissé les grandes lignes au début de l'heure. Là, je ne vais pas tout reprendre ce qu'elle t'a dit, mais je pense que le point saillant pour tout le monde là-dedans, c'est que les personnes vaccinées aux États-Unis pourraient se rendre en visite chez des personnes qui ont été vaccinés sans aucune restriction. Pas de port de masque, ça peut être à l'intérieur, pas de distance, etc. Et pourrait aussi visiter des personnes qui sont non vaccinées, mais qui sont considérées comme étant peut-être moins à risque de la COVID en premier lieu. Donc ça, c'est la grosse ligne. Les deux autres choses que je te mentionnerai rapidement, c'est que pour tout le reste, il y a très, très peu de changements. Fait qu'on est quand même prudent. On se veut prudent dans les recommandations des CDC. La deuxième chose, c'est que le président Biden a annoncé aujourd'hui que ce jeudi soir, il va donner sa toute première adresse formelle à la nation. C'est pour marquer, si on veut, l'anniversaire, là, en guillemets, du shutdown qu'on a eu, là, évidemment, il y a un an. Et je te le mentionne au passage, là, c'est très tôt dans sa présidence pour une première adresse de la sorte. Son prédécesseur, Donald Trump, c'est pas compliqué, il a fallu attendre à la troisième année de sa présidence pour qu'il donne un discours de la sorte. Donc, un gros, gros thème, un gros sujet, en fait, dont on va se reparler d'ici vendredi.
OK, Raphaël, on se rappelle que le printemps dernier, au Minnesota, il y a la mort d'un homme qui s'appelait George Floyd, là, parce qu'un policier s'était agenouillé littéralement sur son cou dans un contexte d'arrestation. Mm-hmm. Ce monsieur-là est décédé, ça a déclenché des émeutes, ça a relancé toute la prise de conscience sur le profilage racial, etc. Bien, le procès du policier Derek Chauvin qui devait commencer aujourd'hui, ça va débuter demain.
Exact. Et écoute, quand on se parle de sujets dont toi et moi, on risque de discuter beaucoup là, dans les prochains jours, sans doute les prochaines semaines, ça, c'en est un incontournable. Donc, ça devait commencer ce matin, ça a été repoussé au début de façon indéfinie, on ne savait pas quand. Puis là, on vient d'apprendre il y a 15 minutes que normalement, demain matin, mardi, ça devrait commencer. Ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle il y a eu un délai. C'est-à-dire que c'est au niveau de la sélection du jury. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, quand tout ça s'était arrivé, et que à l'émission, on s'était parlé ensemble du cas de Amadou Diallo, le jeune là d'origine guinéenne à New York, là, qui avait été abattu il y a à peu près 20 ans par 41 tirs de police, de policiers, 4 policiers blancs. Et à l'époque, le procès devait avoir lieu originellement à New York, puis in extremis, ça avait été déplacé à peu près à 4 heures de là, au nord, dans le comté d'Albany. Les avocats de la défense, des policiers à l'époque, faisaient valoir qu'à New York, bien, les policiers ne pourraient pas avoir un procès équitable. Cette affaire était trop médiatisée. Mais la vérité aussi de cette affaire-là, c'est que, disons-le de façon très crue, Albany, c'est beaucoup moins cosmopolite et c'est beaucoup plus blanc que New York. Et il y en a plusieurs qui diraient à ce jour que ça faisait aussi partie du calcul des avocats de la défense dans ce contexte-là. Donc, dans le cas, évidemment, du procès de Derek Chauvin, évidemment, c'est extrêmement médiatisé également, mais aussi d'énormes implications des deux côtés, autant pour la défense que pour les procureurs par rapport à qui va composer ce jury-là. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, on a appris que l'angle qui allait être pris par les deux côtés, donc les procureurs d'un côté et la défense de l'autre, sont assez prévisibles, dans la mesure où, de part et d'autre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dépeindre les deux personnages principaux comme des méchants. C'est-à-dire Chauvin comme étant quelqu'un qui avait, pardonne-moi l'anglicisme, mais un pattern beaucoup plus large de violence puis d'abus de la force que juste cet incident-là qui a impliqué George Floyd. Alors que du côté de George Floyd, ce qu'on va vouloir faire, c'est le dépeindre comme quelqu'un qui était en fait loin d'être un martyr, loin d'être un enfant de cœur. Et ce qui va être fascinant, et ce qui va être assez explosif, c'est à quel point on va vouloir puis on va pouvoir pousser sur cette note-là. Parce que, évidemment, ce type-là était intoxiqué au moment de son décès, mais de ce qu'on en comprend, la défense de Chauvin voudrait en fait mettre carrément le décès de George Floyd sur les épaules de George Floyd, dire que c'est lui qui était responsable de sa propre mort. Fait que, on verra ce que ça va donner, mais je te dirais ceci, je te parlais du procès du jeune Diallo il y a 20 ans. Rappelle-toi aussi celui de Rodney King, il y a à peu près 30 ans. Ce que la défense avait fait dans ce procès-là, ça avait été aussi de transférer à peu près toute la responsabilité sur les épaules, en fait, de la victime.
Mm-hmm. Dire que Rodney King, le procès de la victime, dans le fond.
Ben, c'est ça l'idée, c'est ça la stratégie de la défense. C'est de dire que, on rappelle évidemment rapidement là, l'histoire de Rodney King, jeune Afro-Américain, évidemment encore, qui se fait tabasser par 4 policiers. Et ce que la défense avait fait, qu'avait présenté, c'était essentiellement un argument selon lequel, ben, King, Rodney King, était l'instigateur. Donc, les policiers avaient agi, entre guillemets, de façon responsable parce que ce type-là avait commencé à chercher le trouble. Ça semble, encore une fois, être beaucoup, beaucoup ce qu'on va essayer de faire. Mais à quel point ça va fonctionner? Écoute, je sais pas, mais ça va être incroyable comme histoire.
OK, rapidement, parle-nous du retentissement de l'entrevue là, du jeune couple de la famille royale, qui même ça fait jaser en Angleterre, ça fait jaser aussi aux États-Unis.
Et comment? Écoute, il y a deux choses là-dessus vraiment intéressantes. Le premier aspect, c'est la fascination médiatique. Les codes d'écoute aux États-Unis sont mirabolantes. Évidemment, il y a l'aspect Oprah, mais il y a aussi beaucoup l'aspect famille royale. Et l'autre chose, je pense, qui est très méconnue du grand public, même aux États-Unis, c'est fascinant, c'est qu'on se parle beaucoup, beaucoup du prince Harry depuis hier soir. Mais savais-tu que la nouvelle première dame des États-Unis, Jill Biden, la femme de Joe, évidemment, avait de ce qu'on en comprend, une assez bonne amitié depuis plusieurs années, depuis le temps où ils étaient vice-président et deuxième dame, là, respectivement, des États-Unis sous Barack Obama. Et Mme Biden s'était rendue à plus d'une reprise à ce qu'on appelle les Invictus Games, qui étaient des espèces de jeux organisés par le prince Harry. Et ils auraient passé tellement de temps ensemble qu'à un certain moment, Joe Biden aurait dit à la blague, la demi-blague, je pense que ce type-là, faisant référence au prince Harry, passe peut-être un peu trop de temps avec ma femme. Fait que, écoute, on en parle beaucoup, effectivement. C'est un objet de fascination partout dans le monde, incluant aux États-Unis.
Merci, Raphaël. On se reparle demain.
À demain.